Vous écoutez On lit pour vous.
Un stress pour le corps. Un texte de Raphaël Derome paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Quand il fait chaud, notre corps doit travailler fort pour éviter la surchauffe. Cela entraîne une cascade d'effets sur tous nos organes. Quand le corps a chaud, il active deux mécanismes. 1. On transpire beaucoup plus. Pour s'évaporer, la sueur absorbe de la chaleur corporelle, ce qui permet d'abaisser la température de l'organisme. 2. Les vaisseaux sanguins se dilatent pour dissiper plus efficacement la chaleur dans l'air ambiant. Le cœur doit alors pomper plus vite et plus fort pour maintenir la tension artérielle. Cœur. Ces efforts supplémentaires augmentent le risque d'infarctus. Poumon. Les températures élevées peuvent empirer la qualité de l'air ou favoriser les feux de forêt, ce qui aggrave l'asthme ou les maladies pulmonaires. La chaleur extrême affaiblit le système immunitaire, ce qui augmente le risque d'infection respiratoire. Rein. La transpiration accrue nous déshydrate, ce qui peut endommager les reins. Peau. La sueur irrite la peau, ce qui exacerbe les maladies comme l'eczéma. La peau brûlée par le soleil transpire moins efficacement. Des symptômes à prendre au sérieux. Épuisement dû à la chaleur. Fatigue, faiblesse, vertige, mal de tête. Bouche sèche, respiration rapide, nausée, vomissement. Crampes musculaires. La personne doit se rafraîchir immédiatement, s'hydrater et se reposer. Appelez le 811 pour des conseils. Coup de chaleur. Température corporelle supérieure à 40 degrés Celsius. Signe d'atteinte au cerveau. Évanouissement, confusion, agressivité, agitation, difficulté à parler. Urgence médicale. Menace à la vie et risque de séquelles permanentes. Appelez le 911. Les bons gestes. Boire beaucoup. Rechercher l'ombre et les endroits climatisés. Diminuer l'intensité du sport ou du travail physique à l'extérieur. Éviter de sortir entre 11h et 15h. Prendre des bains ou des douches tièdes. Prendre régulièrement des nouvelles de ses proches vulnérables. Les vagues de chaleur, un fardeau pour le Québec. 36 000 visites à l'urgence par an. 841 décès en 2024. Les accidents cardiovasculaires sont la principale cause de décès durant les vagues de chaleur. Qui sont les plus vulnérables? Personnes âgées, bébés et jeunes enfants. Leur corps régule moins bien la température. Femmes enceintes. Personnes avec une maladie chronique. Gens qui travaillent ou font du sport à l'extérieur, surtout s'ils portent des équipements de protection. Personnes pauvres, isolées socialement ou sans logement. De nombreux médicaments nuisent à la capacité du corps à réguler sa température, par exemple en réduisant la transpiration ou en aggravant la déshydratation. Adapter les doses pourrait aider durant une canicule, mais on dispose encore de peu d'études pour guider le personnel médical à ce sujet. L'alcool et les drogues posent aussi un risque. C'était « Un stress pour le corps ». Un texte de Raphaël Derome paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Déclin cognitif. Quelles technologies peuvent aider au quotidien? Un texte de Pascal Forget, paru le 30 juin 2026 dans Bel Âge. La démence et le déclin cognitif bouleversent le quotidien et fragilisent les repères. Des ressources adaptées peuvent toutefois augmenter la sécurité et procurer une précieuse tranquillité d'esprit. Sécurité et repérage. Certains dispositifs permettent désormais de localiser une personne, de détecter les chutes et de signaler une situation inhabituelle afin de pouvoir intervenir rapidement. La façon la plus simple consiste à intégrer le téléphone intelligent à un groupe familial pour partager sa position en temps réel. Les proches peuvent ainsi recevoir une alerte si l'appareil quitte une zone prédéfinie, une manière discrète de prévenir l'errance. Le téléphone permet aussi de programmer des rappels pour la prise de médicaments ou les rendez-vous. En ce qui concerne les montres connectées comme Apple Watch, elles offrent des fonctions de sécurité supplémentaires. Certains modèles peuvent détecter une chute et contacter les proches ou les services d'urgence, tandis que d'autres signalent des anomalies cardiaques. Les traceurs Bluetooth sont une autre option simple et abordable. Petit et facile à fixer aux objets du quotidien comme le trousseau de clés, le sac à main ou le portefeuille, ils permettent de faire sonner l'objet à distance, de recevoir une notification si on s'en éloigne ou de le repérer sur une carte avec son téléphone intelligent. Il est également possible de partager la localisation d'un traceur avec un proche. Les détenteurs d'un iPhone peuvent opter pour les AirTags, tandis que du côté Android, des marques comme Tile, Chipolo, Ugreen proposent des modèles comparables. L'installation est simple et peut se faire en magasin. Enfin, pour une approche plus personnalisée des services d'assistance avec boutons d'alerte, offre un encadrement humain en tout temps. Par exemple, l'entreprise québécoise Alerte Assistance propose un bracelet d'alerte à $24.95 par mois ou un pendentif avec détection de chute à $34.95 par mois. En cas de problème, il suffit d'appuyer sur le bouton pour entrer immédiatement en contact avec un agent. Celui-ci évalue la situation et peut, au besoin, communiquer avec le 911 ou avec les contacts d'urgence désignés. Mémoire et rappel. Chez les personnes qui subissent un déclin cognitif, la multiplication des oublis constitue une source importante d'anxiété. Des outils simples peuvent toutefois aider à structurer la journée, à réduire la confusion temporelle et à rappeler les rendez-vous ou la prise de médicaments. Afin de limiter la surcharge visuelle, des affichages épurés où figure uniquement l'essentiel sont à privilégier. Par exemple, l'horloge calendrier, idem, eugeria.ca, affiche en gros caractères l'heure et la date sur un écran clair et facile à lire. Sa particularité? Un contrôle à distance permettant aux proches de programmer rappels et alarmes sans déplacement. Les aidants peuvent également y afficher des messages rassurants, par exemple la date de leur prochaine visite, ainsi que des photos familiales. Pour faciliter la prise de médicaments, des applications comme MediSafe, gratuite, permettent d'entrer le nom des médicaments, la durée du traitement et l'heure de notification souhaitée. Autre solution, le pilulier électronique muni d'une alerte sonore ou lumineuse, vendu en pharmacie ou dans les boutiques spécialisées. Les assistants vocaux intelligents tels qu'Alexa, Siri ou l'assistant Google constituent également des alliés utiles. Rappel de prise de médicaments, de rendez-vous ou d'heure des repas, lecture du calendrier quotidien. Les fonctions s'activent à la demande. À ce sujet, les avancées récentes en intelligence artificielle favorise une interaction plus naturelle. Le ton calme et la disponibilité constante des assistants vocaux contribuent au maintien des routines. En complément, ceux-ci peuvent répondre aux questions, guider une recette, diffuser de la musique, des vidéos et des balados ou encore proposer des jeux questionnaires stimulant la mémoire. Communication et engagement social. Le maintien du lien social demeure essentiel tant pour l'équilibre émotionnel que pour le ralentissement du déclin cognitif. À mesure que l'utilisation d'un téléphone devient plus difficile, certains réglages et appareils adaptés permettent de préserver l'autonomie de la personne et de faciliter les échanges. Parmi ces réglages, les fonctions d'accessibilité intégrées aux iPhone, iPad et appareils Android sont conçues pour en simplifier l'utilisation. Elles s'avèrent particulièrement utiles en présence de troubles cognitifs. L'activation de l'accès assisté, par exemple, allège l'interface en affichant uniquement de grands boutons associés aux applications essentielles. D'autres réglages permettent de réduire les animations à l'écran afin de diminuer la charge sensorielle. Enfin, la dictée vocale facilite la rédaction de messages, même en cas de capacité motrice réduite ou de tremblement. Si malgré ces ajustements, l'interface d'un téléphone intelligent reste trop complexe, des appareils simplifiés représentent une bonne option de rechange. Certains modèles proposent de grands boutons illustrés par la photo des proches, facilitant ainsi les appels. Le SMPL Photo Phone, offert notamment chez Egeria, environ $94,99, constitue un exemple de téléphone adapté. Bien-être et cognition. D'autres outils technologiques peuvent soutenir la mobilité, faciliter la routine et améliorer la qualité de vie à domicile. Les capteurs domestiques permettent ainsi de surveiller à distance certaines activités quotidiennes. Ils détectent, par exemple, l'ouverture de portes, les visites à la salle de bain, le lever du lit, de même que la présence de fumée ou de monoxyde de carbone. Des serrures connectées, contrôlées à distance, peuvent par ailleurs donner accès au domicile sans clé ou vérifier si une porte est restée ouverte. Il existe plusieurs modèles vendus en quincaillerie à des prix variés. Les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone connectés, comme l'avertisseur de fumée intelligent First Alert, compatible avec Google Home, $170, préviennent les proches en cas d'incident. Le service Sensor Care, à partir de $30 l'abonnement mensuel pour un an, propose des capteurs astucieux qui suivent les mouvements dans la maison. Posés sur la porte du réfrigérateur ou de la salle de bain, ces capteurs permettent de s'assurer qu'une personne reste active. La domotique contribue également au confort et à la sécurité. Grâce à des appareils intelligents, il est possible d'automatiser l'éclairage, de verrouiller les portes et même de contrôler à distance certains appareils comme le four, par exemple Samsung Smart, environ $1,000, afin de vérifier qu'il est bien éteint. Associé à un assistant vocal, Alexa, Google Home ou Siri, ces appareils peuvent facilement être commandés avec la voix, ce qui réduit les risques tout en simplifiant le quotidien. Au-delà de l'aspect pratique, le réconfort et la stimulation des sens jouent un rôle important dans le bien-être et ainsi l'autonomie. La boutique spécialisée Egeria propose par exemple la console interactive Tower Tafel, qui projette des images sur une table et utilise des sons et des capteurs pour créer une expérience interactive adaptée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs. On y trouve aussi des toutous lestés conçus pour apaiser et réconforter tout en favorisant les interactions et le déclenchement de conversations. Egeria offre également des conseils, des astuces et d'autres produits selon l'avancée des troubles cognitifs. C'était Déclin cognitif, quelles technologies peuvent aider au quotidien? Un texte de Pascal Forget paru le 30 juin 2026 dans Bel Âge.
Le piège identitaire de la rage incel. Un texte d'Anthony Gifuni, paru le 30 juin 2026 dans Le Devoir. Anthony Gifuni est psychiatre et chercheur spécialisé en santé mentale des jeunes adultes au Centre de recherche universitaire Douglas. La fusillade survenue à Montréal en juin 2026 nous place une fois de plus devant une forme de violence qui est à la fois intime, sociale et idéologique. Un policier et un citoyen ont perdu la vie. Une policière a été grièvement blessée. Le tireur aurait laissé derrière lui un manifeste associé à la mouvance INCEL, acronyme anglais pour Involuntary Celibate ou célibataire involontaire. Comme psychiatre, je vois immédiatement apparaître dans l'espace public une question devenue presque réflexe. Était-il malade mentalement? Cette question est légitime, mais elle est insuffisante. Elle peut même devenir dangereuse lorsqu'elle sert à confondre souffrance physique, idéologie violente et responsabilité morale. Il existe bien sûr des états mentaux qui peuvent altérer profondément le rapport à la réalité. Certaines psychoses peuvent dissocier une personne du monde partagé, l'enfermer dans des convictions délirantes, des hallucinations ou une désorganisation telle que sa capacité de juger ses gestes s'en trouve radicalement compromise. C'est pour cette raison que nos sociétés, sur les plans cliniques et légal, reconnaissent parfois que la responsabilité d'un individu peut être diminuée. Mais tout geste violent n'est pas psychotique. Toute souffrance n'est pas une maladie. Et toute explication psychologique ne doit pas devenir une absolution. L'idéologie incel ne repose pas d'abord sur une perte de contact avec la réalité. Elle repose plutôt sur une interprétation du réel. Celle d'hommes qui se vivent comme rejetés, humiliés, privés d'un dû, et qui transforme cette souffrance en ressentiment contre les femmes, contre les hommes perçus comme plus désirables, contre la société entière. La douleur est réelle, l'injustice, elle, est construite. Mon travail clinique et mes recherches portent notamment sur l'incidence du rejet social sur la dépression et le risque suicidaire chez les jeunes. Le rejet fait mal, littéralement. Des études en neurosciences ont montré que des situations expérimentales d'exclusion sociale activaient des régions cérébrales impliquées dans la composante affective de la douleur. Cela n'a rien d'anecdotique. Du point de vue de l'évolution, être accepté par le groupe a longtemps été une condition de survie. Être exclu, abandonné, humilié ou rejeté pouvait signifier le danger, la vulnérabilité, parfois la mort. Le cerveau humain a donc appris à traiter l'exclusion comme un signal d'alarme. Nous sommes tous vulnérables à cette douleur. Nous sommes tous, à divers degrés, involontaires dans notre souffrance. Mais la question décisive est ce que nous faisons de cette souffrance. Chez certains, le rejet mène à la dépression, au retrait, à la honte, parfois au suicide. Chez d'autres, plus rare, le même désespoir peut se retourner vers autrui. La honte devient rage. La solitude devient accusation. Le sentiment d'échec devient haine. Et lorsqu'une idéologie vient offrir un vocabulaire, une communauté virtuelle, des héros meurtriers et une explication totale à cette douleur, la souffrance cesse d'être seulement une expérience intérieure. Elle devient un carburant politique et relationnel. Il y a d'ailleurs un profond contresens dans l'expression « célibataire involontaire ». Ce qui est présenté comme une souffrance liée au célibat cache souvent autre chose, non pas le désir d'une relation, mais le refus que l'autre soit libre de ne pas vouloir cette relation. Dans une relation humaine, ce qui importe n'est pas seulement le désir de celui qui veut aimer, posséder ou être choisi. Ce qui importe tout autant, c'est la liberté de l'autre. Une relation n'existe que si elle est volontaire des deux côtés. Sans consentement, il n'y a pas de relation. Il y a contrainte, possession, domination. Il serait peut-être plus honnête de dire que la rage incel ne vient pas seulement d'un célibat subi. Elle vient du désir que l'autre cesse d'être libre. Elle vient du fantasme d'un monde où la femme serait réduite à une fonction, réparer l'estime de soi d'un homme, confirmer sa valeur, témoigner de sa réussite sociale, le sauver de son sentiment d'échec. Chez beaucoup d'hommes en détresse, on trouve une trajectoire marquée par la honte, le sentiment d'échec, la conviction intime de ne pas avoir de valeur. Le rejet amoureux ou sexuel vient alors confirmer une blessure beaucoup plus ancienne. Si je ne suis pas choisi, c'est que je ne vaux rien. Cette douleur est profonde. Elle mérite d'être entendue. Mais l'incel fait fausse route lorsqu'il transforme cette honte en accusation contre les femmes. L'obsession de devenir plus attirant, plus dominant, plus alpha, de se comparer aux hommes enviés et haïs, ne vise pas seulement la relation, elle vise la réparation narcissique. La femme devient alors le signe extérieur d'une réussite masculine. L'autre n'est plus rencontré comme sujet, elle est instrumentalisée comme preuve. Les communautés en ligne qui nourrissent ces identités aggravent le problème. Elles donnent l'illusion de l'appartenance, mais souvent sans véritable rencontre. On y parle de solitude sans créer de lien. On y raconte la honte sans la transformer. On y répète les mêmes blessures jusqu'à ce qu'elles deviennent une identité. Et cette identité, loin d'apporter la guérison, devient à la fois un baume et un accélérant. Elle apaise momentanément celui qui la porte en disant « Tu n'es pas seul ». Puis, elle le radicalise en ajoutant « Tu as raison de haïr ». Notre époque produit de plus en plus de solitude. L'érosion du tissu social est visible chez les personnes âgées, les adultes, les adolescents, parfois même les enfants. Les réseaux sociaux promettent la connexion, mais produisent souvent des bulles d'humiliation, de comparaison et d'invisibilité. Or, nous demeurons humains. Nous avons besoin d'être vus, reconnus, acceptés. Les services de santé mentale doivent tenir compte de cette réalité. Il ne suffit pas de diagnostiquer ou de ne pas diagnostiquer. Il faut comprendre comment la solitude, la honte, le rejet, l'aliénation numérique et certaines idéologies se rencontrent chez de jeunes hommes vulnérables. Il faut pouvoir entendre la souffrance sans valider la haine. Il faut intervenir avant que l'identité se rigidifie autour du ressentiment. Mais il faut aussi nommer les choses clairement. La violence misogyne n'est pas une simple conséquence de troubles mentaux mal soignés. Elle est aussi le résultat d'une vision du monde où la liberté des femmes est vécue comme une blessure faite aux hommes. Cette vision doit être combattue non seulement par la psychiatrie, mais aussi par l'éducation, la culture, les familles, les plateformes numériques et nos institutions. Se dire incel, dans cette forme radicalisée, n'est pas seulement un non-sens relationnel, c'est une illusion d'identité. Une identité qui enferme un homme dans sa blessure, qui lui répète qu'il est condamné, puis qui lui désigne des coupables. La souffrance humaine mérite notre compassion. La violence, elle, exige notre lucidité. C'était « Le piège identitaire de la rage incel », un texte d'Anthony Guifouni, paru le 30 juin 2026 dans Le Devoir.
Des romans sous le signe de la diversité sexuelle. 5 suggestions de lecture de Karine Wilder, parue le 14 juin 2026 dans Bel Âge. À l'approche du Festival Fierté Montréal, qui a lieu chaque année en août, on a eu envie de parler de littérature LGBTQI+. Peau d'ours. Dans son village des Pyrénées, Nina, 16 ans, fait tache. D'abord parce qu'elle est plutôt grosse, ensuite parce qu'elle est amoureuse d'une fille qui vit à 500 mètres de chez elle. Rejetée par tous, y compris ses parents, elle va finir par vivre une expérience difficile à oublier. Un peu déroutant, mais bon. Grégory Lefloche, édition du Seuil, 244 pages, $36.95 ou $22.99 en version numérique. Nos femmes sous la mer. Depuis que Léa est revenue de sa mission de recherche dans les profondeurs de l'océan, Miri ne reconnaît plus vraiment sa femme. Notamment, Léa peut rester assise dans la baignoire pendant des heures, flirtant avec le fantastique, une histoire qui a fait pas mal de vagues dans sa version originale. Julia Armfield, édition La Croisée, 244 pages, $39.95 ou $20.99 en version numérique. Une pension en Italie. Les Virsac ont un secret de famille bien gardé depuis des lustres. Un secret que le narrateur de ce superbe roman va tenter de percer en se rendant dans un petit village de Toscane. À l'été 1964, son grand-père y a emmené sa femme et ses filles pour les vacances et ensuite, plus rien n'a jamais été pareil. Que s'est-il donc passé là-bas? Non, on n'en dira pas un mot de plus. Philippe Besson. Édition Julliard, 240 pages, $36.95 ou $20.99 en version numérique. Le Straight Park. Alors que les skate parks sont plutôt hétérocentrés, l'un d'eux, situé dans le Milan, échappe à la règle. Les jeudis soirs, trans et queer s'y réunissent pour faire la fête malgré la pandémie. Gabrielle Cholette raconte la drogue, les interventions policières et sa rencontre avec un type dont le prénom est chargé de mauvais souvenirs. Étonnamment touchant. Gabrielle Cholette, édition Triptyque, 126 pages, $28.95 ou $18.99 en version numérique. Game Changer. Oui, il s'agit du premier tome de la romance qui a inspiré la série télé Phénomène Hated Rivalry, diffusée sur Crave. Elle met en scène Scott Hunter, une star du hockey qui aimerait bien trouver le moyen de casser la glace avec le beau gars sexy qui lui prépare ses smoothies avant les matchs. Une histoire provocante qui ne rate pas son but. Rachel Reed, édition Chatterley, 486 pages, $34.95 ou $13.99 en version numérique. C'était des romans sous le signe de la diversité sexuelle. 5 suggestions de lecture de Karine Wilder, parues le 14 juin 2026 dans Bel Âge.